Bonjour à tous. Alors pareil, hein, tout comme Claire, j'ai préparé quelque chose qui est en essayant de cibler un public assez divers, donc forcément je vais tomber à côté par moment, donc excusez-moi par avance. Alors le cours va être effectivement centré, enfin le séminaire centré sur les algorithmes distribués, et donc en fait juste un petit rappel, Claire en a déjà parlé au début, dans son cours inaugural, un petit peu une question de vocabulaire, presque plus, pour distinguer les algorithmes des programmes. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très, très facile à faire. Et donc, on va se faire un petit peu une définition très simple pour nous. On va dire que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les deux, c'est faire des processus mécaniques, systématiques, pour résoudre un problème. Peut-être la distinction, ça va être que les algorithmes, on va faire une espèce, on va décrire la méthode, enfin la procédure mécanique, on va la décrire, mais à destination d'un humain. Donc pour ça, on va avoir une espèce de modèle abstrait, et puis on va décrire, il va y avoir des sous-entendus, tout comme que d'ailleurs quand on fait une preuve mathématique peut être à différents niveaux, on peut être redescendre au niveau le plus bas, en respectant tous les axiomes, etc. Puis généralement, on se place souvent en un niveau assez élevé, et il y a des étapes qui peuvent être considérées par certains comme étant sauter, ou alors, en général, la plupart des mathématiciens aguerris vont dire « non, ça c'est une étape claire, etc. » Donc là, c'est un peu pareil. Les algorithmes, ça va être quelque chose, un petit peu, une description assez haut niveau et à destination de gens qui ont des prérequis. Le programme, lui, il est à destination de la machine, et donc là, il faut absolument spécifier absolument tout, parce que bien sûr, la machine, elle n'a pas spécialement de prérequis. Les choses évoluent, les ordinateurs, dans quelques années ou dans quelques décennies, pourront éventuellement être capables, on pourra les nourrir de choses relativement imprécises, et eux vont arriver à quand même à s'en sortir. Mais néanmoins, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Donc, le passage d'un algorithme à un programme, c'est un problème qui est complexe. Il y a un choix de langage de programmation, il y a toute une série de choses à faire, et implémenter un algorithme, c'est quelque chose de difficile. Donc nous, on va se baser uniquement à faire une description au niveau algorithmique, essayer de vous convaincre qu'on peut résoudre certaines tâches de façon, comme l'a fait Claire pendant ces deux cours, de façon rapide et efficace. Alors ça, c'était une première petite mise au point sur algorithme versus programme. Avant de faire une deuxième petite mise au point aussi de vocabulaire, donc un petit point sur qu'est-ce que c'est que les algorithmes distribués. Alors bien sûr, ici, c'est une chaire en informatique. Donc on pense tout de suite à ordinateur, mais finalement, donc Claire, de façon très lumineuse, a déjà convaincu, je pense, que ça s'applique à plein d'autres choses, en particulier à la biologie, en particulier à nous. Après tout, on est... Alors là, c'est une discussion qui peut être remise en question, bien sûr, mais si on suppose qu'on n'est rien d'autre, et c'est peut-être probable qu'on n'est rien d'autre que des ordinateurs assez sophistiqués, ben finalement, ce qu'on est là, c'est rien d'autre qu'un réseau distribué de gens qui interagissent, alors gentiment, de gens qui écoutent un orateur, mais plus tard qui vont interagir, et finalement, c'est aussi de l'algorithmique distribuée, quelque part. Donc l'algorithmique distribuée, c'est quelque chose qui s'applique à un très vaste domaine, pas uniquement des réseaux d'ordinateurs qui communiquent entre eux, mais des cellules de mouches drosophiles, des oiseaux, comment font ces oiseaux pour arriver à se coordonner et à peu près voler ensemble, comment font des colonies de fourmis pour se coordonner et construire les choses merveilleuses que peuvent faire les fourmis. Donc, un vaste domaine. Donc, juste pour essayer d'élargir un petit peu le débat, ce n'est pas uniquement des machines, mais vraiment l'algorithme, et en particulier l'algorithme distribué, s'applique à de très grands champs disciplinaires. Alors, la deuxième petite mise au point, c'est une question de vocabulaire sur le parallélisme et le distribué. Alors, c'est peut-être deux mots dont vous avez entendu parler. Qu'est-ce que c'est que le calcul parallèle et qu'est-ce que c'est que le calcul distribué ? Alors là encore, tout comme algorithme-programme, la distinction n'est pas forcément très très claire. Donner une définition précise de qu'est-ce que c'est que le calcul distribué et qu'est-ce que c'est que le calcul parallèle, d'une part c'est peut-être vain, ce n'est pas très utile de se plonger là-dessus. Néanmoins, ça correspond à des communautés relativement distinctes, même s'il y a une intersection qui est non vide. Alors juste pour donner une idée, et là encore une fois, comme j'ai fait pour algorithme versus programme, c'est relativement caricatural et pas forcément reflétant la réalité des choses, mais je dirais que le calcul parallèle, c'est quelque chose comme... Il y a quelque chose de centralisé, quelque part, dans le calcul parallèle, dans le sens où il y a une entité centrale qui va essayer de distribuer, là on peut employer le mot distribuer, des tâches un ensemble commun, un général à une armée, et chacun des soldats, chacun des calculateurs ou des processeurs va exécuter les tâches que le général en chef lui aura attribuées. Et donc, il y a une espèce de... Alors, ce général en chef, ça peut être le programmeur, ça peut être également une entité automatique, mais en tout cas, il y a une espèce de... Les tâches sont allouées bien précisément, et l'objectif, c'est d'obtenir des performances de calcul. L'objectif, donc, les calculs, on a tous entendu parler d'ordinateurs qui vont tous de plus en plus vite, qui résolvent, qui sont même maintenant capables de battre les humains à des jeux aussi sophistiqués que les échecs ou le Go. L'objectif, c'est d'avoir des performances de calcul importantes. Alors, ce n'est pas tellement ce que cherche à faire le calcul distribué, l'algorithmique distribué en tout cas. L'algorithme distribué, c'est plutôt l'image de droite. C'est un peu le foutoir, pour dire les choses gentiment. Il y a pas, bon, il y a un chef, mais personne ne l'écoute, de toutes les manières. Et en fait, chacun en fait un petit peu à sa manière. Les gens collaborent. Et c'est un objectif de collaboration. Tout le monde cherche à résoudre une tâche ensemble. Mais néanmoins, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui ordonne et qui dit « toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu vas aller là ». Il n'y a pas Napoléon ou César qui serait capable de dire à ses armées que faire exactement. Les choses s'auto-organisent. Et donc, dans le calcul distribué ou dans l'algorithme distribué, la problématique principale, c'est la gestion de l'incertitude. On n'a pas quelqu'un comme ça qui va vraiment dire « faites ceci, faites cela ». Il va falloir s'arranger. Et comme en fait tout le monde, les gens sont un peu loin les uns des autres, les gens n'ont pas forcément des horloges qui fonctionnent à la même vitesse, eh bien tout cela fait que la coordination est extrêmement difficile parce qu'on a un incertain énorme, enfin chaque entité de calcul a un incertain énorme à propos de ce qui se passe ailleurs, de ce que font les autres. Donc nous, ce à quoi on va se concentrer, c'est pas tant sur obtenir des performances, pas tant être extrêmement rapide, mais déjà, est-ce qu'on est capable de faire des choses ? Avant de se concentrer sur est-ce qu'on peut les faire de manière efficace. Est-ce qu'on est capable de résoudre rapidement ou pas, ou dans certaines circonstances, est-ce qu'on est même capable de le résoudre du tout, ou vraiment c'est impossible de le résoudre. Alors, le modèle qui est généralement utilisé en calcul distribué, c'est un modèle qui est issu, bien sûr, des modèles standards de l'informatique. Alors, rapidement, pour vous rappeler qu'au début du siècle dernier, déjà définir, justement, on en était à essayer de définir vraiment formellement ce que c'était qu'un algorithme, ce que c'était qu'un calcul automatique, systématique, mécanique. Et donc, il y avait plusieurs pistes. Donc, Alan Turing avec sa fameuse machine de Turing, a été un des créateurs d'un modèle robuste et de calcul pour qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur. Mais il faut savoir qu'il y avait en même temps plein d'autres pistes qui étaient investiguées. En particulier, Alonzo Church avait défini, par exemple, le lambda calcul, qui est une autre manière de concevoir le calcul systématique, une autre manière de concevoir simplement le calcul. Qu'est-ce que c'est que le calcul ? Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux modèles qui sont extrêmement différents sont en fait reflètent la même chose. Ce que l'on peut faire dans un modèle, on peut le faire dans l'autre. Alors, quand est-ce qu'on utilise un modèle ou quand est-ce qu'on utilise l'autre, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Quand on veut faire de l'algorithmique, généralement, on utilise le modèle de la machine de Turing. Quand on veut faire de la preuve de programme ou d'autres types de manipulations qui sont liées avec les programmes et leur vérification, souvent, on utilise beaucoup plus le lambda calcul. Donc, c'est une question d'exclusivité. Ils ont la même exclusivité, si vous voulez, mais c'est une question d'outils plus ou moins faciles à manipuler selon les objectifs que l'on a. Donc, dans l'algorithmique, c'est la machine de Turing qui règne en maître. Et donc, du coup, de manière non surprenante, l'algorithmique distribué, son modèle classique, ça va être très, très simple. C'est une collection de machines de Turing. Donc, pensez-le à une collection d'ordinateurs ou d'entités de calcul qui peuvent être des cellules de mouches drosophiles ou nous-mêmes, une collection de personnes, et un médium de communication. Et tout va se jouer sur la façon dont ces machines interagissent au travers de quel médium et qu'est-ce qu'elles partagent. C'est là que va se poser les problèmes. Alors, pas forcément rafraîchir la mémoire, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que dans le calcul séquentiel classique, donc celui que ce soit modélisé par la machine de Turing ou modélisé par le lambda calcul, mais pensons à un ordinateur, qu'est-ce que peut faire un ordinateur ? Qu'est-ce que peut faire un calculateur ? Il faut savoir qu'il ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'un ordinateur ne peut pas faire. Alors ça, c'est un exemple trivial, alors qui est un petit peu mathématique, mais qui est quand même relativement simple. C'est, imaginons le problème suivant. Donc on va appeler ça le problème de mortalité des matrices. Voici ici deux matrices A et B. Et alors, vous me croyez ou pas, je n'ai pas fait la vérification moi-même, j'ai trouvé sur le web, vous me croyez ou pas que le produit des matrices comme ça, si je fais A fois B fois B fois A fois A fois A fois B quatre fois de suite, etc., ben à la fin, je vais obtenir la matrice nulle. Alors, la question, donc on peut se poser la question suivante, voilà, est-ce qu'on peut faire un algorithme qui prend en entrée six matrices quelconques, 3-3, de type de ces matrices-là A et B, il y a juste deux matrices, mais le problème est donné pour six matrices 3-3, donc ce problème-là, on prend en entrée six matrices 3-3, et est-ce qu'il y a un algorithme qui est capable de répondre, est-ce que le produit de ces matrices, est-ce qu'on peut faire un produit de ces six matrices avec des répétitions, etc., de façon à obtenir la matrice nulle? Alors, ça paraît un problème tout simple, effectivement, des matrices 3-3, c'est quand même pas très très gros, c'est pas une abstraction énorme, mais en fait, c'est indécidable. Indécidable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'algorithme capable de résoudre ça. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'algorithme, on ne peut pas trouver une méthode automatique, mécanique, systématique pour le faire. Alors, si je vous avais dit le problème de, si vous preniez deux matrices 2-2, est-ce qu'on peut le faire? Oui, là, il y a un algorithme qui peut le faire, mais six matrices 3-3, quand on prend 6 matrices 3-3 en entrée, ça, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'algorithme. Donc ça, c'est une limite forte de l'algorithmique. Alors heureusement, vous allez me dire, bon, ce problème-là, c'est un petit peu abstrait, on ne se heurte pas trop à ce genre de problème dans la réalité. Ce n'est pas si vrai. Quand on veut faire de la vérification de programme, typiquement, savoir si un programme, est-ce qu'il y a un algorithme qui prend en entrée un programme et vous dit, oui, non, votre programme, il est correct. Donc cet algorithme, il serait génial parce qu'il prendra en entrée, je ne sais pas, le programme d'une machine, du contrôleur d'une centrale nucléaire, puis vous dira en réponse, oui, non, il n'y a pas de bug. Malheureusement, un algorithme comme ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'algorithme systématique qui est capable de prendre en entrée un programme quelconque et de vous dire si oui, non, il marche. Alors heureusement, pour les centrales nucléaires, pour les avions, pour tous les systèmes, il y a des méthodes ad hoc pour tel ou tel cas restreint. Et si on prend un programme donné, on peut peut-être sur ce programme-là, bien sûr, montrer s'il est correct ou pas, mais une méthode systématique qui prendra en entrée un programme quelconque et qui dirait si oui ou non il est correct, il n'y a pas. Alors ça, c'est une des limitations fortes de l'algorithmique classique, séquentielle. Alors, le problème de l'algorithme distribué, c'est de se heurter à une deuxième source de difficulté, qui est non seulement l'indécidabilité séquentielle, mais aussi cette source d'incertitude dont je vous ai parlé au début. Comment les gens peuvent agir alors qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe dans le réseau, enfin dans le système de toute cette collection d'entités. Alors les incertitudes, elles sont liées à plein de raisons. Il peut y avoir, donc, comme je dis souvent, ce qui est plus facile à comprendre, des incertitudes spatiales. On est dans un réseau de communication. Ce qui se passe à un bout d'une ligne de métro, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe à l'autre bout. Dans un réseau informatique, heureusement, les machines peuvent prendre des décisions sans être obligées d'interroger ce qui se passe à l'autre bout d'Internet. Mais on doit faire des choses sans savoir ce qui se passe dans le réseau tout entier. Il y a des incertitudes également temporelles, Claire l'a évoqué, il y a tout un problème de comment agir dans un cadre où les horloges, c'est-à-dire le petit tic qui va faire les pas de calcul de chacune des entités, peuvent être différentes selon les entités. Il y a des machines plus ou moins rapides, il y a des machines plus ou moins chargées, donc elles vont fonctionner avec des vitesses différentes qui peuvent varier dans le temps en plus. Une machine était lente au début, puis elle devient plus rapide vers la fin parce qu'elle est moins chargée. Comment gérer cette incertitude temporelle? Bien évidemment, quand on prend un système distribué, très grand, la probabilité qu'il y ait une panne est énorme et on doit vivre avec. Quand vous avez un grand système, ce n'est pas un cas à part, la panne. C'est, ça arrivera. Un grand système, une grande plateforme de calcul, doit tolérer le fait qu'il va y avoir des pannes. C'est quasiment systématique. Donc ces pannes peuvent être de plein de formes. Elles peuvent être juste un petit bug et ça repart. Ça peut être carrément la machine crash. Ça peut être carrément la machine est sous le contrôle, on parle de panne malicieuse, sous le contrôle d'un adversaire. Votre réseau a été piraté. Et donc là, carrément, vous avez affaire à lutter contre un adversaire. Et puis, vous avez aussi un cadre qui est beaucoup utilisé en économie, mais c'est utilisé dans plein d'autres cadres, et en informatique également, qui sont des comportements égoïstes. Donc, il va te dire que moi, je veux bien, typiquement dans un réseau ad hoc, je veux bien, moi, transférer des messages, mais ça me coûte un peu de l'énergie sur ma batterie, donc je n'ai pas envie d'en transporter beaucoup. Alors, à la fois, il faut en transporter, parce que si personne n'en transporte, il ne va rien se passer dans le réseau. Donc, tout le monde veut bien participer, mais pas trop dépenser. Donc là, on est dans un cadre de théorie des jeux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement on fait face au problème de l'indécidabilité de la machine de Turing, mais qu'en plus, quand on en met plusieurs ensemble, ben on est encore moins puissant quand on en met une. Alors c'est le truc un petit peu contradictoire par rapport au parallélisme. Quand on met du parallélisme, on espère d'avoir des facteurs d'accélération. Mais quand on a de l'incertitude, quand il y a un manque de coordination, ben finalement, ça devient encore plus compliqué et ça peut être éventuellement plus difficile de résoudre des tâches élémentaires quand on est plusieurs que quand on est seul. Typiquement, le cas de la porte. Si on est deux personnes à passer devant une porte, si on est seul, c'est clair, on y va. Si on est deux, bah, toutes les stratégies qu'a évoquées qui est claire, finalement, c'est plus compliqué d'être deux devant une porte que d'être tout seul. Alors, une des tâches auxquelles s'attaque l'algorithme distribué, une des tâches un petit peu reine, ou le cadre reine, c'est de briser la symétrie. Le problème, justement, c'est ces deux personnes devant la porte, comment ils font pour se décider à qui passe devant l'autre. Comment on brise la symétrie. Et donc, plein de tâches qu'a mentionné Claire sont des tâches qui sont énormément étudiées en algorithme distribué. L'élection d'un leader, hein, d'un chef, parce que bien sûr, dès qu'on a un chef, on a notre général qui nous manque. Là, le système distribué, il nous manque notre général. Si on est capable d'élire un général, démocratiquement ou pas, mais en tout cas en suivant un algorithme, eh bien, on a résolu une grosse partie du problème, parce que là, on aura quelqu'un qui pourra un peu dicter les choses. Se mettre tous d'accord, c'est le consensus. Faire de la coloration pour des problèmes dont a parlé Claire, l'affectation de fréquence. Le consensus, par exemple, se mettre tous d'accord, c'est quelque chose qui est très important dans la consistance des bases de données. Parce que quand on fait, justement, si on veut faire de la tolérance aux pannes, eh bien, il faut que les mêmes données soient répétées, de façon à ce que si une machine tombe en panne, la donnée soit toujours disponible dans le système. Donc, si on fait du réplica de données, eh bien, il faut que quand on met une donnée à jour, ben, toutes les copies de cette donnée soient également mises à jour. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une coordination et un consensus qui soit obtenu pour qu'on ait bien une consistance, que la même donnée, le réplica d'une même donnée, soit tous la même valeur. Donc toutes ces tâches, qui sont des tâches relativement abstraites, trouvent des applications directes hein, dans des systèmes réels. Alors je vais passer en revue un petit peu, en tout cas deux, et puis peut-être trois si j'ai le temps, deux incertitudes majeures en algorithmique distribuée. L'une qui est une incertitude qui est donc temporelle, liée au fait que les horloges ne fonctionnent pas à la même vitesse, et l'autre est spatiale. Donc on va commencer d'abord par les incertitudes temporelles, qui consistent donc à devoir gérer l'asynchronisme. Donc là, ce petit dessin, c'est pour vraiment signifier qu'on a de l'asynchronisme à tout niveau, dans le sens où on a certaines machines qui fonctionnent à une certaine vitesse, d'autres qui n'ont pas la même heure et pas la même vitesse, et puis d'autres qui sont carrément en panne, et voire même d'autres, certaines qui sont complètement arrêtées. D'accord ? Là, il n'y a pas de malice, c'est juste la panne, crash, on s'arrête, on termine. Il peut y avoir, donc si vous voulez, c'est la vitesse zéro. D'accord ? Donc les vitesses d'horloge peuvent aller d'une vitesse extrêmement grande jusqu'à la vitesse zéro, qui représente le cas où la machine est en panne. Alors, comment on gère ce scénario-là? Alors, c'est un scénario qui est relativement classique. Si vous avez un des processeurs sur un ordinateur portable, les ordinateurs que vous avez ici ou à la maison, maintenant, dans un même processeur, en fait, il y a plusieurs cœurs, qu'on appelle, c'est en fait plusieurs sous-processeurs, si vous voulez, qui collaborent. Et faire collaborer ce petit nombre de processeurs, ben, ils ne travaillent pas forcément, justement, ils n'ont pas les mêmes charges. Donc, en fait, ils n'ont pas forcément les mêmes vitesses d'exécution. Et c'est un problème en soi, aussi bien au sein d'une toute petite entité qui a un multicœur sur votre ordinateur, qu'au sein d'Internet, avec toutes ces machines qui, bien sûr, à distance, ont des caractéristiques tellement différentes qu'elles ont des horloges extrêmement différentes. Alors, dans ce problème-là, un des problèmes phares et essentiels, c'est de résoudre le consensus. Pouvoir être capable de ne pas bloquer des ressources. Une façon d'accéder à des ressources, par exemple, c'est de la bloquer. Si on a besoin, mettons, d'imprimer, ben, quand on est plusieurs dans un laboratoire ou même chez soi, qui a les enfants qui veulent accéder à l'imprimante ou vous voulez imprimer un document, ben, quand quelqu'un imprime, d'autres personnes n'impriment pas. Donc, une façon d'accéder à la ressource, c'est de la bloquer, d'effectuer l'impression et de la relâcher une fois que l'impression est terminée. Alors ça, c'est un petit problème, c'est que si lors de l'impression, il y a une panne qui se produit, eh bien, l'imprimante reste bloquée, elle n'est pas relâchée, puisque l'ordinateur qui a lancé l'impression est tombé en panne, et du coup, il ne se passe plus rien, plus personne ne va imprimer, la ressource est complètement captée, et il faut relancer le système, grosso modo. Alors le consensus, c'est un moyen d'éviter ce genre de choses. Donc outre la consistance des bases de données, même au niveau d'un système, c'est vraiment une des tâches primordiales. Alors est-ce qu'on peut le faire dans un système asynchrone? Alors regardons un consensus très très simple. On a cet ensemble d'entités. Les règles sont les suivantes. Ils ont des valeurs proposées, ils proposent plus ou moins, et ils doivent se mettre d'accord sur soit plus, soit moins. Tous. Alors, ils doivent donc décider soit plus, soit moins, c'est la terminaison. L'accord, c'est que tout le monde doit... Les valeurs décidées doivent être toutes identiques, soit tous plus, soit tous moins. Et puis, il y a quand même une condition pour que le problème ne soit pas trivial, parce que sinon, si je dis juste les deux premières conditions, bah, tout le monde décide plus, puis on a terminé, le problème est résolu. Alors, il y a une condition qui est une toute, toute petite condition, très faible, qui dit que si tous les robots proposent la même valeur, si au début, ils proposent tous plus, alors ils doivent tous se mettre d'accord sur plus. D'accord ? Donc ça tue la stratégie qui consisterait à se mettre, a priori, dire on va toujours se mettre d'accord sur plus, on choisira toujours plus en sortie. Ben non, parce que si il s'avère que c'est une instance où tout le monde propose moins, on n'a pas le droit de tous proposer plus. D'accord ? Il va falloir se mettre d'accord sur moins. Donc voilà la condition du consensus. Extrêmement simple. On propose des valeurs, plus ou moins, et on doit tous se mettre d'accord sur une de ces deux valeurs. Alors, quel est le modèle qu'on va prendre? On va prendre un modèle très simple et très puissant. Donc, souvenez-vous que la seule chose qui affaiblit le modèle, c'est l'absence d'horloge globale. Tout le monde a sa propre horloge. Donc, dans nos trois petits robots, là, il y a des robots rapides, il y a des robots un petit peu plus lents qui sont en train de réfléchir à d'autres choses, et puis il y a carrément des robots qui sont tombés en panne. OK? Alors, par comment ces robots interagissent, ou ces processeurs interagissent, ils interagissent au moyen de ce qu'on appelle une mémoire partagée. Alors, c'est un espace, mémoire, dans lequel chacun des processeurs, ou chacun des petits robots, peut écrire et lire. Donc, il est dispo de deux inscriptions. J'écris quelque chose, et je lis. Et quand je lis, mettons un modèle très fort, c'est comme si je prenais une photo du tableau dans son entier, je récupère toutes les valeurs du tableau en une fois. D'accord ? Donc j'ai ma petite case, le robot là en bas à gauche, il a sa petite case, il a dit moi je suis le robot 1010 et je propose plus. D'accord ? Donc au début il n'y a rien dans la mémoire, chacun a sa petite valeur plus et moins, et puis ils doivent commencer à aller écrire sur le tableau et puis à lire le tableau. Alors pas en même temps, hein, on écrit ou on lit. Hein, donc la vision du tableau a sa limite ici, c'est j'ai une instruction d'écriture et une instruction de lecture. Ce n'est pas la même chose, quand j'écris, je ne vois pas partout ce qui se passe ailleurs. Et la... Est-ce qu'on peut résoudre le consensus comme ça? Donc, il y a un robot qui écrit, et puis il se dit, moi, je propose plus. Est-ce qu'il y a d'autres qui proposent plus? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'avère que dans ce modèle qui paraît extrêmement puissant, après tout, pourquoi on n'arriverait pas à résoudre le consensus? Eh bien, en fait, on ne peut pas y arriver. Donc, ça, c'est un théorème qui est assez vieux maintenant, donc qui a été montré par Fisher, Lynch et Patterson en 85. Et qui leur a valu le Dijkstra Prize, le prix Dijkstra en 2001, ils ont montré la chose suivante, le consensus binaire, donc juste avec deux valeurs. Alors imaginez si on avait la consistance des bases de données avec plein de valeurs, juste avec deux valeurs, le consensus binaire est impossible dans un modèle asynchrone, même en présence d'au plus une seule panne. Donc c'est même pas qu'il y a plein de processeurs qui tombent en panne et que ça rend les choses complexes, non, même s'il y en a au plus une, donc quand même un système qui est très robuste, il y a au plus une panne qui se produit, eh bien, à partir du moment où le système est asynchrone et qu'il peut y avoir au plus une panne, c'est le problème du consensus est impossible. Alors, la question de au plus une panne, c'est quelque chose de très important ici. S'il n'y avait pas de panne, on pourrait le faire. C'est la possibilité qu'il y ait une panne, même si elle ne se produit pas, mais la possibilité qu'il y ait une panne qui rend impossible la tâche du consensus. Alors, pourquoi ça? L'intuition est la suivante, c'est qu'on ne peut pas attendre. Ou en tout cas, on ne peut pas attendre un processus particulier. Parce que si j'attends la réponse de ce processus, par exemple, j'écris dans mon petit tableau, là, j'écris quelque chose, puis je vais attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui écrit, ben, je peux attendre indéfiniment. Alors en tout cas, si on est, par exemple, quatre processus, ben, je peux en attendre deux autres. Mais je ne peux pas attendre que les quatre processus écrivent parce qu'un d'entre eux peut être en panne. Je ne sais pas s'il est en panne ou pas. Peut-être qu'il est simplement très lent. Mais en tout cas, je ne peux pas attendre. Et c'est ça qui rend... Juste l'existence de cette petite panne qui rend le consensus impossible. Alors, La preuve est pas extrêmement complexe. Bon, maintenant, bien sûr, c'est toujours facile, hein, 30 ans plus tard, de dire ben, c'est pas si complexe, mais fallait le faire à l'époque. Et en tout cas, maintenant, il y a d'autres outils qui permettent de voir les choses un petit peu plus facilement, bon, une fois qu'on a acquis les outils. Donc, je vais vous donner une idée assez rapide de ces outils. Alors, ces outils sont ce qu'on appelle la topologie algébrique. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et on va juste essayer de vous faire donner une idée de pourquoi, comment on peut modéliser un calcul dynamique, le calcul distribué de plein d'entités qui écrivent, qui lisent, etc., par un objet complètement statique, qui est ce qu'on appelle un complexe. Alors, ici, voilà simplement le cas de deux processus. On a deux processeurs, ou deux robots, ou deux personnes, Alice et Bob. Hein, en informatique, c'est toujours comme ça qu'il y a deux personnes, c'est Alice et Bob. Alors, ça, c'est au début. Ils sont comme ça. Chacun a sa propre entrée. Alice a plus ou moins, et Bob a également plus ou moins. Je vais pas vous parler des valeurs ici. Je vais juste essayer de vous donner une idée de qu'est-ce qui peut se produire comme exécution possible de l'algorithme. Alors, regardons ce qui peut se passer après une étape. Alors, je prétends que ce petit dessin-là, donc maintenant, au début, j'ai commencé par finalement un tout petit graphe juste avec Alice et Bob. Il y avait deux sommets puis une arête. Maintenant, le graphe, il est devenu, après une étape un petit peu plus compliquée, j'ai quatre sommets et trois arêtes. Alors, c'est quoi ces quatre sommets? Ben, c'est toujours ces deux copies de Alice et deux copies de Bob. Et chacune des arêtes représente un état possible du système. Au temps 0, l'état possible du système, c'était celui-ci. Au temps 1, l'état possible du système, il est possiblement en trois états possibles. Alors, quels sont ces trois états? Un des premiers états, c'est l'état central. Ça représente le cas où ils ont écrit et lu. Donc, chacun a fait une étape d'écriture, lecture. C'est ça ce que j'appelle une étape. J'écris, je lis. Chacun a fait une écriture, une lecture. Et l'arête du milieu représente le cas où Alice a vu Bob. C'est-à-dire qu'Alice, au moment où elle a lu, elle a vu ce que Bob avait écrit. Et Bob a également vu ce qu'Alice avait écrit. Donc, grosso modo, vous imaginez quelque chose de quasiment synchrone. Alice et Bob ont écrit en même temps, et chacun ont lu en même temps. Ils se sont vus mutuellement. L'arête la plus à gauche, c'est le cas où Alice n'a pas vu Bob. Bob a toujours vu Alice, mais Alice n'a pas vu Bob. Vous voyez, c'est l'un des deux a été plus rapide que l'autre, et au moment où il a pris la photo, donc en l'occurrence, quand Alice a pris la photo, Bob n'avait pas encore écrit. Donc, Alice a raté Bob. Elle est allée, somme toute, trop vite. Bob est allé plus lentement. Alors, vous voyez que pour le sommet, la B1, pour cet état de Bob, lui, il ne sait pas si Alice l'a vu ou pas. D'accord? Ça, c'est l'incertitude du distribué. Donc, il ne sait pas s'il est, en fait, sur l'arête au milieu ou sur l'arête de gauche. Donc, mais en tout cas, la dernière arête, bien sûr, c'est l'inverse. Hein, c'est Bob qui n'a pas vu Alice et Alice qui a vu Bob. Donc, on a là les trois états possibles du système. Et on pourrait continuer comme ça, après deux étapes, dire voilà l'ensemble des états possibles du système. On a en particulier l'arête du milieu là, entre l'Alice 2 et Bob 2, c'est le cas où ils sont complètement synchrones. Et puis une extrémité, l'Alice du bout et puis le Bob 2, ben là c'est vraiment Bob est très rapide puis Alice a été très, très lente, a encore rien vu de Bob. Vous voyez, on peut représenter comme ça, je prétends, hein, mais c'est facile à vérifier, que là, ça représente tous les états possibles du système d'interaction entre les deux entités après deux étapes. Alors, on peut faire ce jeu-là avec trois étapes. Alors voilà, maintenant, au lieu d'avoir Alice et Bob, on aurait Alice, Bob et Charlie, ou disons le processeur blanc, le jaune et puis le vert, le noir. Alors, qu'est-ce qui se passe après une étape? Alors, bah, bien sûr, après une étape, on retrouve sur chacun côté de mon petit triangle, là, on retrouve les cas possibles. Là, c'est un cas sur le triangle, mettons, en haut à gauche. C'est le cas où le sommet noir, lui, il n'a rien écrit, il n'a rien fait. Et vous avez, pareil, mettons, Alice et Bob, qui ont les trois scénarios possibles qui étaient représentés avant sur une ligne. Maintenant, je le représente sur un côté. Puis vous avez Alice et Bob là, vous avez Alice et Charlie là-bas, puis Bob et Charlie en bas. Alors, il y a aussi des cas en plus avec trois. Il y a le cas, par exemple, c'est le cas central, c'est le petit triangle central. C'est le cas où Alice, Bob et Charlie se sont vus tous les trois, mutuellement. Ils se sont tous vus tous les trois. Et puis, alors, vous voyez, il y a plein de cas possibles. Je ne sais pas, ce triangle-là, par exemple, celui-ci, là, c'est Alice et Bob ont été rapides, puis Charlie a été un peu en retard. Enfin, il y a tous les entrelacements possibles sont représentés sur cette figure après une étape. Et si on fait deux étapes, mais il faut recontinuer à subdiviser, on dit ça subdiviser, donc ça c'est en fait c'est un complexe qu'on appelle un complexe simplicial, donc on continue à subdiviser, il faut imaginer après deux étapes, je ne l'ai pas dessiné, j'ai eu la flemme, mais après deux étapes, il faudrait remettre un petit triangle ici connecté de la même façon que celui-ci, et remettre un petit triangle dans chacun des triangles, on resubdivise l'ensemble de tous les triangles, et ça représenterait exactement toutes les interactions possibles qu'il y a pu y avoir entre les trois processeurs. Et alors, c'est en fait un théorème de Early et Chavit dans les années en 99, qui leur a vu le Gödel Prize en 2004, qui ont montré qu'un problème peut être résolu dans un modèle asynchrone avec crash, si et seulement si. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Si et seulement si, il y a une façon de prendre ce qu'on appelle le complexe de sorte d'entrée, je vais vous donner un exemple tout de suite, de le subdiviser, et puis de trouver une application vers ce qu'on appelle le complexe de sortie, et que cette application, bien sûr, doit préserver l'adjacence dans mon complexe et doit être, bien sûr, compatible avec le problème en question. Alors ça, c'est un théorème relativement abstrait. En passons tout de suite à un exemple. Passons justement à notre consensus. Alors j'ai dessiné sur ce petit dessin, c'est un consensus très simple, deux processeurs, mettons le blanc et le noir, Alice et Bob, et binaire. Ils ont en entrée 0 ou 1. Alors, le petit dessin à gauche, c'est le complexe d'entrée. Alors qu'est-ce que ça représente ? On retrouve nos deux processeurs, noir et blanc. Le processus noir, il peut avoir deux entrées possibles, soit 0, soit 1. Le processus blanc peut avoir deux entrées possibles, soit 0, soit 1. Et puis, je mets des arêtes entre toutes les entrées possibles. Donc, on peut avoir le système, l'arête horizontale du haut, c'est le système dans le cas où Alice et Bob se présentent avec en entrée, eh bien, chacun, ils ont 0. L'arête du bas, c'est chacun, ils ont 1. Et puis, sur les côtés, c'est quand le noir a 0 et le blanc a 1, et vice-versa. C'est les quatre possibilités d'entrée dans mon système. Maintenant, que dit la spécification du consensus? Le consensus dit que, il faut finir soit avec 0, 0, soit 1, 1. C'est ça, résoudre le consensus. Alors, plus exactement, quelles sont la spécification du consensus? La spécification du consensus, elle est représentée ici. Alors, on ne va pas lire toutes les flèches, mais regardons par exemple le cas de la flèche de l'arête en haut, horizontale en haut, qui connecte 0, 0. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand les deux, souvenez-vous de la spécification du consensus, si tout le monde démarre avec 0, il faut se mettre d'accord sur 0. D'accord? Donc, la flèche jaune, là, en pointillé jaune, elle vous ramène sur la petite arête 0, 0 là-bas. Si le processus noir est tout seul, si l'autre est tombé en panne et que l'autre ne démarre jamais, et qu'il a la valeur 0, lui aussi, il doit ressortir la valeur 0. Pareil pour le processus blanc. Même chose, c'est symétrique en bas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est les flèches bleues, là. Les flèches bleues, c'est justement le cas où il y a possibilité de faire soit l'un, soit l'autre, soit de se mettre d'accord sur 0, 0, soit de se mettre d'accord sur 1, 1. Donc, ce sont les cas où on a le noir qui vaut 0 et le blanc qui vaut 1, ou l'inverse. À ce moment-là, la sortie possible, c'est soit 0, 0, 0, soit 1, 1. Ce sont les deux sorties possibles. Donc ça, c'est la spécification du consensus. Alors maintenant, la question, ce que dit le théorème d'Early et Chavit, il dit, est-ce qu'il est possible de subdiviser le complexe d'entrée, le petit carré en l'occurrence ici, le subdiviser, donc subdiviser chaque arête en mettant plein de points à Alice Bob alternativement, est-ce qu'on peut faire ça? Et puis trouver une application, c'est-à-dire trouver une application qui envoie chaque sommet sur chaque sommet, qui préserve la forme du complexe, de manière à respecter les règles du consensus. Là, c'est relativement simple de se convaincre que c'est impossible. C'est impossible parce que là, le complexe de gauche, il est connecté. On peut aller de tout point vers tout autre point en restant dans le complexe. Le complexe de droite, il n'est pas connecté. On ne peut pas aller de tout point à tout autre point. Et donc, ça, c'est très facile de vérifier mathématiquement avec la définition de ce que c'est qu'une application simpliciale, de vérifier qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'application simpliciale qui ne préserve pas la connectivité. Donc là, ça, c'est simplement un raisonnement purement mathématique. Une fois qu'on a formulé, c'est l'absence de cette application dont que Herlivis et Chavitz cherchent. Ils disent qu'il doit y avoir une application simplicielle du complexe d'entrée vers le complexe de sortie. Et en fait, ici, c'est impossible. On ne peut pas avoir de telle application parce que le complexe d'entrée, il est connexe. Le complexe de sortie n'est pas connexe. Et ça termine la démonstration. Donc, c'est relativement simple. Une fois qu'on a les bons outils, c'est l'impossibilité du consensus est relativement simple à obtenir. Alors, en pratique, comment on fait ? Ben, en pratique, on essaie de faire comme on peut. Donc, il y a toute une série de propositions d'algorithmes de consensus plus ou moins efficaces. Alors, c'est, une fois de plus, c'est vraiment crucial d'avoir le consensus dans les systèmes distribués. Alors, il y a un fameux algorithme qui s'appelle Paxos, hein, qui a été conçu par Leslie Lamport, qui a eu le prix Turing, qui est l'équivalent un petit peu du prix Nobel ou de la médaille Fields pour les informaticiens. Donc, il a obtenu le prix Turing en 2014 pour ses travaux, pas spécifiquement sur Paxos, mais sur les horloges en général et sur les fondements du calcul distribué. Donc, il y a des techniques efficaces. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Paxos ne résout pas. Paxos pourrait s'exécuter à jamais, ne jamais terminer. Alors, il se trouve que, bien sûr, en pratique, ce n'est pas ce qui se produit. C'est des cas extrêmement pathologiques et que donc Paxos termine très efficacement. Dès qu'il peut terminer, Paxos termine. C'est ça une des caractéristiques de cet algorithme qui est relativement sophistiqué, donc je ne vais pas en parler ici. Je vais, par contre, maintenant sauter complètement pour revenir à une autre forme d'incertitude qui est les incertitudes spatiales. Alors, là, ça rejoint plus de ce qui a été présenté par Claire tout à l'heure. On est dans un réseau et notre objectif, c'est de faire des choses purement localement. On ne veut surtout pas avoir à résoudre un problème. Pour résoudre un problème quelque part, est-ce que je veux prendre quelle fréquence d'émission je vais utiliser, etc. Je ne veux pas avoir à demander à tout le réseau qu'est-ce que je dois faire. Donc, je veux juste prendre une décision en discutant un petit peu avec mes voisins, peut-être à une certaine distance, mais pas trop loin dans mon réseau. Alors, le problème là, l'équivalent un petit peu, si vous voulez, du consensus dans le problème du calcul local, c'est un problème qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le problème de la coloration. Alors là, on va regarder quelque chose de très très simple. On va regarder la trois colorations de l'anneau. Alors, le problème est spécifié de la manière suivante. Les nœuds ont des identifiants, pensez aux adresses IP, aux adresses Internet. Chaque nœud a sa propre adresse. Donc là, les adresses, même on a simplifié qu'elles sont entre 1 et n, le nombre de sommets de mon réseau. Et mon réseau, c'est un anneau, vraiment très très simple. Alors par contre, ces adresses-là, elles sont ordonnées d'une façon absolument quelconque. Hein. Ça, c'est une façon possible d'ordonner ces 10, je crois que j'ai 10 sommets, ces 10 adresses dans mon réseau. Et l'objectif, c'est que les sommets calculent une couleur. Donc combien de couleurs on a droit ? Ici, on va se donner 3 couleurs. Alors pourquoi 3 couleurs ? Alors donc là, voilà ici ce que les sommets doivent calculer. Ils peuvent choisir une couleur rouge, bleu ou jaune. C'est ça leur sortie. Et bien sûr, la contrainte, c'est la contrainte de coloration propre qui dit qu'un sommet doit avoir une couleur qui doit être différente des couleurs de ses voisins. Et donc on voit bien que c'est le cas. Le sommet numéro 7, là-bas, il a la couleur jaune qui est bien différente de rouge et de bleu. Alors, vous pourriez me dire, OK, mais sur mon anneau, là, à 10 sommets, j'aurais très bien pu regarder le problème de la deux colorations, puisqu'après tout, j'aurais pu colorier alternativement bleu-rouge, bleu-rouge, bleu-rouge. Ça aurait marché pareil. Alors, bien sûr, ça aurait marché pareil pour un anneau, parce que l'anneau était pair, mais si on prend un anneau impair, on a besoin de 3 couleurs. On ne peut pas le faire avec 2 couleurs, parce que si vous essayez avec 2 couleurs l'anneau avec 5 sommets, partez du rouge. Après, à côté, on doit avoir nécessairement une couleur différente, disons jaune. Si je veux utiliser que 2 couleurs, il faut que je remette le rouge, que je remette le jaune, et au bout d'un moment, ça coince aux deux extrémités. Je dois utiliser une troisième couleur. Donc, si on veut que le problème soit défini pour tous les anneaux possibles, je dois m'autoriser à avoir 3 couleurs. Même si pour certains anneaux, on peut faire mieux et faire que 2 couleurs, là je vais faire avec 3 couleurs. Donc problème extrêmement simple. Ce qui est important de bien noter sur ce problème-là, c'est que la spécification du problème, elle est complètement locale. Tout ce que je demande au nœud, c'est prenez une couleur qui soit différente de la couleur de vos voisins. C'est tout. Donc c'est des choses qui, a priori, on pourrait se dire, on va y arriver localement. Je vais juste communiquer un coup avec mon voisin, je ne sais pas, on va comparer nos adresses IP, puisque c'est les adresses, là, les chiffres qu'on a, je sais pas, le sommet 5, là en bas à gauche, il va communiquer avec le sommet à sa droite, le sommet à sa gauche, imaginons qu'ils ont une notion de droite et de gauche, ils vont communiquer avec, à droite et à gauche, il va récupérer les identifiants 3 et 10, puis il fait un petit calcul, modulo, je ne sais pas quoi, peut-être qu'il peut y arriver en un coup, Alors, s'il ne peut pas y arriver en un coup, bah, il va recommencer à refaire une communication. OK, on ne s'est pas mis d'accord, est-ce qu'on peut se remettre d'accord? Est-ce qu'on peut le faire en temps constant? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux résoudre la coloration? Une fois de plus, qui est une spécification purement locale, qui fait intervenir des contraintes logiques qui sont uniquement à distance 1 dans mon réseau, est-ce que je peux arriver à le faire en temps 1? Alors, Claire vous a présenté des algorithmes probabilistes qui résolvaient le problème en temps, mettons, log n, si on avait le droit de beaucoup d'aléas, surtout de communiquer des messages importants, ou log carré, si on restreignait un petit peu la capacité de communication des liens. Ici, la capacité de communication va être un non borné, et par contre, je veux faire les choses déterministes. Je ne veux pas utiliser d'aléas. Mais mon instance n'est pas arbitraire. Les instances que traitait Claire étaient des instances arbitraires, des cellules. Là, c'était peut-être planaire, mais en tout cas, des choses relativement complexes. Ici, c'est purement un anneau, extrêmement simple. Donc là, sur un cas particulier, le cas de l'anneau, on peut très bien imaginer peut-être qu'on peut le faire en temps constant. Alors, voyons voir ça, si on peut le faire en temps constant. Alors, le modèle, hein, là, on s'interroge sur le problème de la complexité spatiale, donc on fait abstraction de toute autre chose. Donc, tout à l'heure, mon modèle, c'était une modèle avec mémoire partagée, je faisais abstraction du réseau, j'imaginais que tout le monde, comme si tout le monde dans Internet pouvait écrire sur un même tableau, bien sûr, c'est une abstraction, c'est valable dans certains systèmes et pas des systèmes à très grande échelle, mais je me suis focalisé sur le fait que les horloges étaient asynchrones. Ici, je vais supposer complètement l'inverse, je vais supposer que j'ai des horloges synchrones, même si c'est très difficile à implémenter en réalité. On va supposer des horloges synchrones. Par contre, je vais avoir uniquement un modèle de communication très très simple, par message. Là, on n'écrit pas sur un tableau centralisé, on s'échange des messages. Alors, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que c'est une étape dans ce calcul-là? Une étape, c'est chacun des nœuds peut envoyer un message à chacun de ses voisins. Donc, il a deux voisins, un voisin de gauche et un voisin de droite. Il peut envoyer un message, donc il reçoit les messages de ses voisins, et puis il fait un calcul. Et le calcul, il fait des calculs arbitrairement complexes. Il résout des problèmes qui peuvent être extrêmement difficiles. Je ne me mets aucune contrainte sur les calculs qu'il peut faire. Je ne me mets aucune contrainte sur la taille des messages. Rien du tout. Tout ce que je mets, c'est qu'on ne peut communiquer qu'avec ses voisins. D'accord ? Donc, en particulier, si je veux avoir des informations à propos de quelqu'un qui est à distance 2, à deux arêtes de moi dans l'anneau, ça va prendre deux étapes, parce qu'il va falloir un message pour approcher d'un coup et un autre message pour approcher d'un deuxième coup. Donc ce modèle-là, extrêmement simpliste, il mesure parfaitement la localité. Si on fait quelque chose en une étape, c'est qu'on a communiqué uniquement à distance 1. Si on fait quelque chose en deux étapes, c'est qu'on a eu de l'information qui est venue, on a obtenu de l'information que des gens qui sont à distance au plus 2. Et en général, en T étapes, c'est des gens qui sont au plus à distance T. Donc, modèle très simple. Alors, mauvaise nouvelle de nouveau, un théorème dû à Natti Lignal en 92, qui lui a valu également un prix, dit le prix Dijkstra en 2013, qui montre que la 3 coloration de l'anneau, de n sommets, ne peut pas se faire en temps constant. Et il nécessite un nombre d'étapes, alors ce nombre d'étapes, ça vaut la peine de le mentionner, un nombre d'étapes qui est au moins log étoile de n. Alors, Claire a déjà évoqué le log. Le log d'un nombre, c'est essentiellement le nombre de chiffres dont vous avez besoin pour coder ce nombre soit en binaire, soit en décimal. Et alors, le log étoile, c'est le nombre de fois qu'il faut itérer le log pour arriver plus petit que 1, à être plus petit que 1. Alors, j'aurais dû l'écrire, mais on va essayer de le faire de tête. Si je prends, pour ce qui est considéré un petit peu comme une borne sup du nombre d'atomes dans l'univers visible, qui serait, mettons, 10 puissance 100. Alors, 10 puissance 100, si j'en fais le log, ça fait 100 fois le log de 10. Alors, log de 10, on va dire que c'est un log à base 2, donc on va dire que c'est 3, grosso modo, ça fait 300. Log de 300, c'est à peu près 256, donc ça fait 8. Et puis, après, log de 8, c'est 3. Log de 3, c'est un peu plus de 1. Et puis, après, je suis en dessous de 1. Donc, en 5 opérations, log, en 5 opérations, je suis arrivé en dessous de 1. Donc, le log étoile de 10 puissance 100, c'est 5. Donc, c'est une valeur extrêmement petite. Déjà, Claire disait que les logs, c'était petit. Bon, les logs étoiles, c'est vraiment absolument petit. Néanmoins, formellement, ce n'est pas constant. C'est-à-dire que quand n grandit, il faut prendre de plus en plus d'étapes pour faire la coloration. Donc, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre uniquement en un nombre constant d'étapes. On le résout en un nombre d'étapes ridiculement petit, mais ce n'est pas constant. Donc voilà encore un obstacle, voilà quelque chose qui vous dit qu'il y a des choses, pourtant tout est spécifié localement, tout est trivial. En fait, on peut y arriver en log étoile, dans cette, vous voyez, on peut faire beaucoup mieux que log n, même en déterministe, on peut le faire, je ne vais pas vous expliquer l'algorithme, mais c'est un cas particulier, ce n'est pas un cas général, comme a montré Claire tout à l'heure, là c'est dans l'anneau uniquement. Alors juste, une peut-être, alors il me reste combien de temps? Je n'ai pas vu à quel moment j'ai commencé. Encore un quart d'heure peut-être. Donc je vais peut-être alors, très rapidement donner une idée de la preuve. Donc qu'est-ce que voit un sommet, le petit sommet X là, de quoi il est au courant après deux étapes? Donc après une étape, le sommet X est uniquement au courant de son sommet à gauche, là, qui est appelé G2, et du sommet à droite qui est D1. Après deux étapes, il a appris. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris les données de ce problème, il a appris l'identifiant, l'adresse IP, si vous voulez. Il a appris les données de G1 et de D2 en deux étapes. Plus généralement, en T étapes, ce qu'apprend un sommet, le sommet X au milieu, eh bien, il va apprendre les adresses IP de ces T sommets à gauche et de ces T sommets à droite. C'est tout ce qu'il a récupéré en T étapes, c'est uniquement ça qu'il peut obtenir. Et donc un algorithme, c'est rien d'autre que quelque chose, un algorithme en T étapes, c'est rien d'autre que de consiste à récupérer les données dans un rayon T, et puis à partir de ça, je dois trouver une fonction qui va, à partir de ces données-là, me retourner une couleur. Tout à l'heure, c'était jaune, bleu ou rouge. D'accord ? Donc c'est une fonction de l'ensemble de ces séquences, comme ça, sur l'ensemble des trois couleurs. Alors comment on peut procéder une fois qu'on a compris ce que c'était qu'un algorithme en T-étapes ? Eh bien, ce qu'a fait Lignal, c'est qu'il est passé, c'est un transparent technique, mais c'est le seul, après ça redeviendra moins technique. Ce qu'a fait Lignal, c'est qu'il a étudié ce qui s'appelle le graphe des configurations. Donc il a fait un graphe abstrait. Une fois de plus, c'est ça qui est très important dans les deux preuves topologiques, et là uniquement le graphe, c'est qu'on a, un algorithme qui est quelque chose de dynamique, quelque chose qui procède en étapes. On se ramène à un objet mathématique statique, et on étudie les propriétés de cet objet mathématique pour en déduire des limites ou des qualités sur l'algorithme de départ. Alors ici, on se ramène à un graphe, c'est quelque chose d'un objet plus simple qu'un complexe simplicial, juste un graphe dont les sommets, c'est toutes les vues possibles, toutes les configurations possibles qu'on peut avoir. Donc je vous dis, un sommet X, ce qu'il peut savoir en T étapes, c'est les T sommets de gauche puis les T sommets de droite. Donc, en fait, c'est toutes les séquences possibles qu'on peut avoir de 2t plus 1, 2t plus 1 valeur prise entre 1 et n. Alors, ce que je n'ai pas précisé dans le transparent, c'est que, bien sûr, ces valeurs sont distinctes, hein, 2 à 2, parce que dans l'anneau, on ne revoit pas. J'ai dit que les identifiants, comme les adresses IP pour vos ordinateurs, ce sont des valeurs qui sont distinctes. Donc, on a l'ensemble des sommets, c'est ça. Donc, c'est un très gros graphe. Très gros graphe. L'ensemble des sommets. Et quand est-ce qu'on va mettre une arête? On va mettre une arête entre deux configurations. Donc là, vous voyez, on retrouve à gauche la configuration la même que tout à l'heure, hein, le X avec ses T voisins à gauche et ses T voisins à droite. Et on va mettre une arête si le sommet, l'autre séquence, là, la séquence toujours, c'est une séquence de 2T plus 1 sommet, si on peut l'obtenir par un petit décalage d'un cran. Vous voyez, je l'ai juste décalé, le G1, il a fichu le camp et est arrivé DT plus 1 à la suite de DT. J'ai décalé d'un côté et rentré une nouvelle valeur. Si je peux faire ça, je mets une arête. D'accord ? C'est la règle d'adjacence dans mon graphe. Alors pourquoi j'ai choisi cette règle d'adjacence ? Parce que cette règle d'adjacence, elle correspond au cas d'un anneau, ça veut dire à l'existence d'un anneau, où j'aurai effectivement des identifiants G1, G2 placés comme ça ensuite, X, D1, D2, DT, DT plus 1. L'anneau, il y aurait ces. Maintenant, ça fait 2T plus 2 valeurs consécutives. Et ces deux séquences-là, pour lesquelles j'ai mis une arête dans mon graphe des configurations, ça correspond à la vue en T étapes de deux sommets voisins, du sommet X et du sommet D1. Le sommet X, il voit exactement la séquence de gauche, et le sommet D1, il voit exactement la séquence de droite. Donc quand on a comme ça deux séquences qui sont obtenues juste par un décalage, ça correspond à deux séquences qui peuvent être vues par deux voisins dans l'anneau. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que si j'ai un algorithme qui est capable de colorier, de trois colorier l'anneau, donc d'affecter trois couleurs dans un anneau de n sommets, et bien ça veut dire, qu'est-ce que fait mon algorithme? Une fois de plus, il ne fait rien d'autre que prendre une séquence et lui affecter une couleur. C'est quelque chose de complètement systématique, c'est déterministe, il n'y a pas d'aléa. Je prends la séquence Et à chaque séquence, il y a une couleur spécifique qui est affectée. Donc ça veut dire que, en particulier, vous voyez que dans cet anneau-là, hein, ce grand anneau, bah, les sommets, le sommet X et le sommet D1, il faut qu'ils aient des couleurs différentes. Il faut que mon algorithme sorte des couleurs différentes. Donc ça veut dire que si j'ai un algorithme de coloration en T étapes, eh bien, je suis capable de colorier mon gigantesque graphe des configurations avec uniquement trois couleurs. Parce que deux sommets voisins dans le graphe des configurations, eh bien, ils auront bien des couleurs différentes. Parce que si on met deux sommets voisins, c'est qu'ils correspondent à deux sommets voisins dans un anneau. Donc forcément, l'algorithme, s'il n'est pas faux, il doit donner des couleurs différentes. Alors ça, mathématiquement, ça se traduit par ce qu'on appelle l'indice chromatique du graphe GTN qui est plus petit que 3. Et puis là, je saute la partie technique, qui est la partie technique qui est de montrer que cet indice chromatique, pour être plus petit que 3, eh bien, il faut que T fasse au moins log étoile N. Mais là, ce que je voulais juste surtout illustrer, c'est un petit peu la même approche que ce qu'on a fait pour la topologie algébrique, là, sur quelque chose de plus simple. On a ramené l'étude d'un problème distribué, complexe, où il y a de la dynamique, etc., à un objet purement statique sur lequel on peut utiliser des outils pour calculer ses propriétés et en déduire donc des propriétés de l'algorithme. Alors, j'ai juste un petit transparent sur l'utilisation de l'aléa. Claire en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément spécialement en dire long. Juste pour dire la deuxième partie du transparent, pour dire que, bon, la première partie, c'est pour dire que l'aléa, ce n'est pas encore quelque chose de très très bien compris. Par moi, certainement pas. Pour des gens comme Claire, beaucoup mieux. Mais en tout cas, on n'a pas encore complètement compris ce qui se passe en algorithmique avec l'aléa. Dans le distribué, il n'y a pas des problèmes aussi fondamentaux que dans le séquentiel. Mais par exemple, on ne sait toujours pas si l'aléa aide vraiment pour la coloration distribuée. On l'a vu avec l'algorithme qu'a donné Claire sur le stable, qu'en fait, l'aléa, ça permet de faire des algorithmes extrêmement élégants, simples, etc. Pas forcément simples à analyser, mais en tout cas simples à implémenter. Les algorithmes rapides déterministes sont beaucoup, beaucoup plus complexes et donc, du coup, très difficiles à implémenter. Mais néanmoins, on n'a pas encore été capable de montrer qu'il y avait vraiment une différence entre la puissance du déterministe et la puissance de l'aléa pour la coloration. Donc ça reste un petit problème ouvert, pas aussi important que le problème crucial qui a écrit au-dessus que je ne détaille pas, mais pour dire qu'on a des questions sur l'aléa. Évidemment que ça casse la symétrie, ça c'est sûr que ça aide dans certains cas, mais dans certains problèmes comme la coloration, ce n'est pas complètement clair. C'est conjecturé que oui. Alors, rapidement, juste pour finir sur quelque chose d'un petit peu plus ludique, on pourrait aussi en distribuer, on peut, et là, se ramener à la physique. Il y a beaucoup d'interactions entre les physiciens et les informaticiens, en particulier autour du calcul quantique. Et on pourrait s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en distribué et qu'on partage maintenant des ressources quantiques. Alors, je vais prendre un exemple tout simple pour illustrer le problème. On va prendre ce jeu-là. Alors, ce jeu, c'est dit le jeu XOR. Alors, avant que je l'explique, on a toujours nos deux entités. Comme il y a deux entités, c'est encore Alice et Bob. Alors, Alice reçoit en entrée un bit. A, c'est un bit. Et elle doit sortir un bit, X. Bob reçoit en entrée un bit, B, et doit en sortir un bit, Y. Alice et Bob ne communiquent pas. D'accord ? Il y a un mur entre les deux. Il n'y a pas de communication entre Alice et Bob. Alors, qu'est-ce que doivent vérifier X et Y par rapport aux entrées A et B ? Ben, X et Y doivent vérifier la chose suivante. Le OU exclusif de X et de Y doit être égal au E de A et de B. Alors, le E de A et de B, c'est quoi ? Donc, rappelons-nous que A et B, ce sont soit 0, soit 1. Donc, imaginez, c'est 0, c'est faux, 1, c'est vrai. Donc, le E de A et B, c'est que ça va être vrai, que si et seulement si A et B sont vrais. Donc A et B va valoir 1 si et seulement si A vaut 1 et B vaut 1. Dans tous les autres cas, les trois autres cas, ça va valoir 0. Et là, je vous ai mis la table de vérité. Si les deux parties sont vraies, ça fait vrai. Si une des deux parties est à faux, le résultat est faux. Alors le OU exclusif, c'est une autre opération logique qui dit juste qu'il va être vrai si et seulement si les deux valeurs sont différentes. Donc c'est-à-dire qu'une des deux valeurs doit être vraie, exclusivement vrai, c'est-à-dire que l'autre valeur doit être fausse. D'accord ? Donc, la table est représentée ici. Donc, si X est vrai et que Y est faux, ça va valoir vrai, X ou exclusif Y. Inversement, si X est faux et Y est vrai, ça sera vrai. Et si les deux sont vrais, ça vaut faux. Donc on veut l'exclusivité. On veut qu'un seul des deux soit vrai. Donc voilà la règle. Dit autrement, la règle dit que, par exemple, si A et B sont tous les deux à vrai, il faut absolument que X, que Alice et Bob sortent des valeurs de Y, de X et de Y qui soient différentes. D'accord ? Pour que le OU exclusif soit vrai. Bon, c'est un peu difficile de jongler avec ces tables-là. Hein, mais rappelons-nous, c'est juste cette règle-là. Si Alice et Bob reçoivent en entrée vrai, alors il faut absolument que Alice et Bob sortent en sortie des choses différentes. L'un doit sortir vrai, l'autre doit sortir faux. Et à l'inverse, si Alice et Bob, un des deux reçoit la valeur faux, il faut que les deux ils ressortent la même valeur, soit tous les deux 0, soit tous les deux 1. Bon, c'est assez facile de se convaincre que ce petit jeu-là, en déterministe, il n'y a aucune chance. D'accord ? C'est complètement impossible, on ne connaît rien, ils ne communiquent pas, je ne sais rien. Vous pouvez vous amuser à pile ou face, hein, si vous voulez, ou à jouer à deux, vous pouvez vous communiquer pas, vous allez vous courir forcément une fois pour une entrée. Alors par contre, en probabiliste, quand on partage des ressources, on peut faire mieux. Alors il y a plein de façons de partager des ressources. Une des façons les plus simples, donc une fois de plus, hein, mes deux joueurs, là, ils ne communiquent pas. Par contre, ils peuvent partager des choses. Donc imaginons qu'ils ont accès, là pour l'instant ils ne partagent rien, imaginons qu'ils ont chacun accès à un dé, tout comme dans les algorithmes qu'a présenté Claire ce matin. Donc qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour jouer ? Il y a une façon de faire très très simple. Ce que va faire, c'est au moins un truc trivial, ce que va faire Bob, c'est qu'il va dire « Moi, je m'en fiche, je sors toujours 0. » Et ce que va faire Alice, elle va tirer à pile ou face, elle n'a même pas besoin d'un dé, elle a juste besoin d'une pièce, elle tire à pile ou face, avec probabilité 1,5, elle sort 0, avec probabilité 1,5, elle sort 1. Et à ce moment-là, c'est facile de vérifier que pour n'importe quelle entrée qu'on va donner à Alice et Bob, eh ben, le succès va être 1,5. Probabilité de succès, 1,5. Pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, c'était impossible. C'est le mieux qu'on puisse faire. On ne peut pas faire mieux qu'1,5 avec des ressources d'aléas privés, comme ça. Chacun a son petit dé ou chacun a sa petite pièce de monnaie ou sa collection de pièces de monnaie. C'est le mieux qu'on puisse faire, probabilité de succès 1,5. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on partage maintenant des ressources aléatoires partagées, vraiment partagées, c'est-à-dire on a la même source d'aléas, soit qu'on ait tiré les bits aléatoirement et que l'on se soit donné avant de commencer, soit qu'on a accès tous les deux, Alice et Bob, ils ont tous les deux accès à un dé, et ils voient tous les deux, mais Alice et Bob ne communiquent pas. Hein. Mais avant, ils ont pu se mettre d'accord sur une stratégie, ils ont pu se partager des bits aléatoires au début, avant, mais une fois qu'ils ont fait ça, après, le jeu doit se dérouler sans communication. Alors, si on fait avec de l'aléa partagé, on peut faire une probabilité de succès 3/4. Rapidement, comment on ferait ça? Si vous écrivez les équations de cette... il y a 4 équations, eh bien... Les 4 équations, on ne peut pas les résoudre toutes simultanément, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'algorithme déterministe. Par contre, si vous prenez 3 de ces, parmi ces 4 équations, n'importe lesquelles 3 parmi ces 4 équations, là, vous pouvez les résoudre. Donc, qu'est-ce que font Alice et Bob? Ils regardent le dé, ça va être un dé à 4 valeurs, et ce dé, il va nous dire quelle équation on supprime. Donc, ils regardent le dé, ils voient que c'est 2. Alors, tous les deux vont supprimer l'équation 2, résoudre le système qui maintenant est résoluble, et sortir la valeur en fonction de ce système. Juste pour donner l'idée. Donc là, on peut le faire avec 3/4, et c'est le mieux qu'on puisse faire. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux si on partageait des ressources quantiques? Donc typiquement, là, ce qui se passerait, si on aurait, par exemple, chacun aurait pris un système de particules, l'un aurait pris l'une, l'autre, l'autre, et ces particules ont été intriquées. Donc il y a des corrélations, maintenant, spécifiques entre ces deux particules. Et bien là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un peu mieux. On peut faire, en fait, une probabilité de succès qui est cosinus carré de pi sur 8, et qui est 0,85, qui est un petit peu mieux que 3/4. Donc, avec de l'aléa quantique, on peut faire mieux. Alors ça, c'est intéressant, parce que grosso modo, c'est une version extrêmement, extrêmement simplifiée d'une espèce de preuve, qui pourrait faire une expérience pour vérifier qu'on vit dans un monde quantique. Ben effectivement, c'est ça qui a été fait par Aspect et par ses collègues pour montrer qu'on vit dans un monde quantique. C'est essentiellement essayer de modéliser un système comme ça pour voir les probabilités de succès et de vérifier qu'en fait, les probabilités de succès sont supérieures à ce qu'on peut obtenir si on vivait dans un monde classique. Et que donc, on doit vivre dans un monde quantique ou autre, mais en tout cas, on ne vit pas dans un monde classique parce que la nature réalise des choses qui ne peuvent pas, les particules en tout cas, réalisent des choses qui ne peuvent pas être faites si on suppose uniquement qu'on vit dans un monde classique. Donc ça, c'est un exemple extrêmement simplifié de ce type d'opération mentale qu'on pourrait avoir. Juste un mot pour dire que si on s'intéresse uniquement à ce qu'on appelle la non-localité, c'est-à-dire qui sont respectés, ce qui est à peu près admis par les physiciens comme étant le minimum qu'on puisse supposer de la physique, eh bien on peut faire avec une probabilité de succès 1. Donc, mais bon, les expériences montrent qu'on est proche des prédictions du monde quantique, donc la physique quantique doit refléter probablement en tout cas une partie de la réalité. Une petite question ouverte pour mon avant-dernier transparent. Justement, est-ce qu'on pourrait faire des algorithmes distribués qui seraient quantiques ? C'est encore quelque chose qui n'a pas été complètement... L'informatique quantique est en plein boom, bien évidemment. En distribué, ce n'est pas complètement clair de savoir si on pourrait gagner, par exemple, pour ces problèmes de coloration ou ces problèmes de stable. Est-ce que si on avait accès à des ressources quantiques, est-ce qu'on pourrait y arriver ? Ou est-ce que même si on avait accès à des ressources non locales, comme ici voilà une boîte non locale, alors qu'est-ce que c'est une boîte non locale ? Ça a n entrées et n sorties, et tout ce que ça doit faire, c'est que la définition, c'est uniquement de dire que si je prends n'importe quel ensemble S d'entrées, eh bien la distribution de probabilité des sorties de S ne doit dépendre que des entrées de S. D'accord ? Autrement, sinon, on ne vérifierait pas la non-localité, on pourrait transmettre de l'information à distance. Donc la non-localité, c'est exactement ça. Ce n'est pas valeur par valeur, mais c'est la distribution de probabilité ne dépend que des entrées. Alors, est-ce qu'avec en disposant des boîtes non-locales comme ça, on serait capable de faire des algorithmes de coloration ou des algorithmes... Alors, les drosophiles ne vont pas utiliser, probablement pas, de ressources quantiques, mais ça serait intéressant pour résoudre des problèmes pratiques de savoir si en utilisant des ressources du type quantique ou de la non-localité, eh bien, on pourrait faire des algorithmes plus rapides et peut-être faire la coloration en temps constant au lieu de la faire en log étoile n. C'est-à-dire, en fait, en 4 étapes au lieu de 5, grosso modo. J'ai dit avant-dernier, mais c'était l'avant-avant-dernier, excusez-moi. Juste pour dire qu'il y a quantité d'autres modèles que je n'ai pas abordés. Bien sûr, les réseaux, ils varient dans le temps, ils sont dynamiques. Il y a de la mobilité, si c'est des agents logiciels, des robots qui bougent dans le plan. On peut essayer d'affaiblir ou pas la capacité de calcul individuelle. Ce qu'a pris l'exemple qu'a pris avec les cellules claires, c'est évident qu'on ne peut pas supposer qu'une cellule fasse des calculs extrêmement sophistiqués. De même, on peut supposer qu'on a des capacités de communication qui sont contraintes, radio, des faibles bandes passantes. Il y a toute une panoplie. C'est d'ailleurs un petit peu gênant en fait, pour l'algorithme distribué, parce que finalement, on a pléthore de modèles. Et c'est difficile de savoir, de prendre un modèle, c'est représentatif de quelque chose, mais pas forcément représentatif d'autres choses. Donc ça, c'est un petit peu un défi de l'algorithme distribué, d'arriver à se dépatouiller avec tous ces modèles pour essayer de trouver les bons modèles abstraits sur lesquels on peut dire des choses intelligentes sans être trop loin de la réalité. Donc en conclusion, le message principal, c'est que l'algorithme distribué, bien sûr, on est intéressé par les performances, etc., mais la première chose que les gens veulent vraiment comprendre, c'est en quoi, malgré l'incertitude qu'on a sur notre environnement, présence de panne, asynchronisme, distance spatiale, etc., est-ce qu'on peut résoudre quand même des tâches relativement complexes ? On a vu que c'est le cas, oui, des fois, c'est le cas, non, des fois, et l'incertitude, ça crée des problèmes qui sont vraiment dramatiques et qui limitent beaucoup les capacités d'un système distribué. Les outils, j'en ai mentionné certains, donc la théorie des graphes, la combinatoire, la topologie algébrique. Je n'ai pas mentionné la complexité des communications. Dans la question qu'il y a eu tout à l'heure sur le fameux compromis nombre de bits, nombre de calculs, typiquement, ça serait probablement une question qu'il faudrait aborder avec la complexité des communications, savoir combien de bits il faut échanger pour être capable de se mettre d'accord sur une certaine valeur. C'est un outil qui est très, très fortement utilisé en algorithmes distribués. Et j'ai juste mis sur ce transparent trois livres qui sont de collègues proches, trois livres qui sont écrits en anglais. Le premier en haut à droite, c'est un livre sur justement les problèmes locaux, hein, sur les réseaux. En bas à gauche, c'est sur le calcul distribué asynchrone. Et puis le livre en bas à droite, c'est celui sur une modélisation à partir de la topologie algébrique pour faire du calcul distribué et voir un petit peu les limites du calcul distribué. Et donc, c'est tout, et je vous remercie beaucoup. Yeah.